France Inter, le 13-14, Marion Loup.
En 2050, un Français sur six aura plus de 75 ans. Avec notre vieillissement et l'allongement de l'espérance de vie, arrive aussi une santé plus fragile et la dépendance. Le secteur du grand âge concerne aujourd'hui déjà 800 000 personnes et donc ça ne devrait faire qu'augmenter. Les professionnels espéraient une grande loi. Ils ont eu finalement hier une série d'annonces du Premier ministre, principalement de nouveaux crédits, 400 millions d'euros dès l'an prochain, un tarif plancher de 22 euros de l'heure pour l'aide à domicile et 10 000 postes créés en 5 ans dans les maisons de retraite. Pour détailler et interroger ces mesures, avec nous, la ministre déléguée en charge de l'autonomie. Bonjour Brigitte Bourguignon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Brigitte Bourguignon, je parlais à l'instant des mesures annoncées hier. Vu le rythme de travail dans les EHPAD, vu les salaires qui sont parfois très bas pour les aides à domicile, est-ce qu'on va vraiment assez loin là ?
Je pense qu'on va très loin, on n'est jamais si loin d'ailleurs sur le secteur qui est concerné du grand âge, de l'autonomie, du médico-social qui est souvent le parent pauvre des politiques publiques menées depuis 15 ans. Donc je crois qu'aujourd'hui on peut dire au contraire qu'on s'attaque vraiment au problème en tirant les leçons de la crise sanitaire surtout parce que rien ne serait plus dommageable que de ne pas tirer les enseignements de cette crise et c'est ce que nous avons fait. Et moi, plutôt qu'une grande loi qui nous aurait conduit à ne pas répondre aux besoins urgents aujourd'hui, je préfère que nous intervenions depuis l'année dernière déjà et depuis 2020 avec la création de la cinquième branche pour des choses plus pragmatiques mais qui prendront effet dès 2022.
Alors cette question des 10 000 postes créés en 5 ans, elle a fait réagir les professionnels. Eux, ils ont fait un calcul, ils disent que ça fait un tiers de postes en plus par an et par EHPAD. Ça reste pas beaucoup quand même.
Alors d'abord, je voudrais quand même rappeler à tout cela que quand on raisonne en termes de dépendance comme on l'a toujours fait depuis des années, on se trompe. On se trompe parce qu'on ne correspond pas d'abord à ce que demandent les Français. Et nous, on préfère répondre aux besoins des Français. Les Français disent « je veux vieillir chez moi ». Est-ce qu'on l'entend ou pas ? La crise a confirmé, bien sûr, la crise a confirmé ce besoin-là. Et je crois qu'on ira vers un renforcement, bien sûr, sanitaire, sécurisant des EHPAD, une modernisation, un plan massif d'investissement d'ailleurs pour réaliser ces investissements.
Quand ça ?
À partir de maintenant, puisque le Ségur, vous le savez, a déjà entériné cette somme l'année dernière de 2,1 milliards d'investissements, une somme qui n'est jamais arrivée, aussi bien sur les petits équipements pour favoriser et améliorer la vie des professionnels, pour le numérique aussi, dont on avait besoin, mais aussi pour investir dans des locaux qui ne soient plus obsolètes, comme on peut le voir sur tout le territoire. Donc je crois qu'on a pris à bras le corps justement ce problème. Quand on parle de taux d'encadrement, souvent on se trompe, parce qu'on vous prend un taux qui est générique, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien compter dans ce taux d'encadrement l'équipement technique. Nous décidons de dire que nous voulons mettre des soignants, parce que c'est ce qu'on nous demande dans ces établissements. Aide-soignants, médecins coordinateurs, astreintes d'infirmières de nuit, et on met des financements dessus.
Ça, c'est dans les mesures annoncées également hier. Mais je reviens sur ce un tiers de postes par an par EHPAD. D'après vous, ça va vraiment changer les choses ?
Bien sûr, ce dont on parle, ce sont des médecins coordinateurs, par exemple. Les médecins, aujourd'hui, il n'y en a que dans 1500 EHPAD qui interviennent vraiment de manière assez complète. Aujourd'hui, il nous faut une mesure qui permette que dans tous les EHPAD, d'ici 2025, il y ait un médecin coordonnateur, qui agisse au moins 2 jours par semaine dans ces structures qui nous le demandent. Il y a aussi les astreintes de nuit des infirmières qu'on nous a demandé également pendant la crise et bien au-delà. On met en place aussi un financement pour les équipes mobiles.
Et ça, c'est intégré dans ces postes supplémentaires, dans les 10 000.
Bien sûr. C'est une montée en charge qui est très efficace, mais qui va démarrer. Moi, ce que je voulais, à travers des mesures de ce type, c'est que ça prenne effet dès janvier 2022.
Mais vous les entendez, les témoignages de personnes qui sont dans des EHPAD et qui disent la personne qui s'occupe de moi, le salarié qui s'occupe de moi, n'a que quelques minutes à consacrer à ma toilette, etc.
C'est bien sûr parce qu'on a entendu tout ça. Et moi,
c'est pas ce que vont faire les médecins et les infirmiers, qui par ailleurs sont nécessaires. Mais
les aides-soignants aussi, et c'est pourquoi nous travaillons aussi sur les métiers. Et c'est pourquoi on a revalorisé d'abord, de manière salariale, ces métiers. Parce que il y a aussi un problème d'attractivité, vous le savez, on a un mal fou à recruter. Donc il ne suffit pas de décréter qu'il en faut, encore faut-il qu'on les forme, encore faut-il qu'il y en ait, et encore faut-il qu'on les accueille de la meilleure manière possible. Donc voilà pourquoi, depuis 2 ans, on a travaillé sur la revalo salariale, sur
la revalorisation,
les métiers et sur leur formation, bien sûr.
Bernadette nous appelle de la Loire. Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour, bonjour Madame la Ministre. Donc Bernadette, je suis vice-présidente du collectif EHPAD Famille 42 et autres départements.
Alors notre question... Bernadette, je vais peut-être commencer par vous demander comment vous avez réagi, vous, à l'annonce des mesures qui ont été présentées hier.
Alors évidemment, nous avons réagi favorablement, bien que nous ayons été dépités que la loi sur le grand âge ait été repoussée, voire abandonnée. Notre question, c'est en cas de changement de gouvernement en avril prochain, est-ce que ce plan financier va être pérenne alors que la loi aurait proposé cette pérennité.
Alors Brigitte Bourguignon, effectivement, c'est beaucoup de professionnels regrettent qu'il n'y ait pas une grande loi comme ça avait été annoncé effectivement par le président de la République.
Moi, je pense que les professionnels que je rencontre ne me demandent pas une loi. Ils me demandent des moyens, ils me demandent qu'on les écoute, et c'est ce que nous faisons. Donc je crois que c'est un faux débat que celui-ci, à partir du moment où on y met les moyens qu'ils demandent. Et qu'on a vraiment fait le diagnostic.
Donc la loi ne permet pas, d'après vous, c'est ce qu'elle a l'air de dire,
d'un élève de pérenniser... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réforme qu'on a entamée depuis 2 ans se poursuit, avec, je rassure Madame du collectif que j'ai entendu, avec une programmation pluriannuelle, bien sûr, donc des financements pérennes. Et ça, c'est garanti par cette trajectoire que nous avons mis en place sur 5 ans. Mmh. Voilà.
Bernadette, vous aviez une autre question ?
Oui, je voulais alerter Madame la Ministre sur le fait que le protocole ministériel de retour au droit commun n'est pas encore appliqué dans un certain nombre d'établissements. Il y a toujours des horaires de visite restreintes qui ne permettent pas des liens réguliers avec nos proches et qui, dans les protocoles et au-delà, sont reconnus comme citoyens à part entière. Donc notre question, c'est comment des directions peuvent encore s'autoriser à ne pas appliquer vos directives ministérielles alors que le 6 mai dernier, dans un entretien, vous avez clairement dit le cadre que nous proposons, c'est les directeurs. Ce n'est pas ils peuvent, mais ils doivent, et c'est bien différent. Donc, comment faire pour que nos parents, nous puissions aller les voir régulièrement ?
Alors, merci beaucoup, Bernadette. Madame la Ministre, est-ce que vous avez connaissance, vous, effectivement, d'EHPAD qui ne respecteraient pas vos directives ? On parle de l'épidémie de Covid, là, et des restrictions qui ont suivi.
Alors, je suis complètement d'accord avec vous, Madame, parce que j'ai beaucoup de remontées de ce type un peu partout sur les territoires. Pour autant, il y a eu effectivement encore, vous le savez comme moi, une vague épidémique qui a touché quelques établissements qui ont été obligés de prendre des mesures de protection. Mais ça repose aussi le problème de l'obligation vaccinale et bien sûr, le temps que nous n'avons pas des schémas complets partout autour de nous, ça pose toujours le problème de cette bulle sanitaire qu'on souhaite mettre autour des résidents. Mais je suis d'accord avec vous, connaissant aussi les problèmes que ça a engendré, que cet isolement parfois forcé des résidents. Moi, ce que je tiens d'abord à rappeler, c'est que les résidents sont des citoyens à part entière, qu'ils ont perdu leur autonomie, certes, mais qu'ils n'ont pas perdu leur citoyenneté et qu'il faut respecter ce droit, oui.
Brigitte Bourguignon, vous parliez de l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il y a beaucoup de soignants qui ont refusé de se faire vacciner dans les EHPAD ?
Alors, moi, je suis assez satisfaite des retours que j'ai eus pour l'instant parce que, effectivement, je suis en liaison directe avec les fédérations EHPAD et domiciles chaque semaine pendant cette crise. Et le retour que j'ai eu, c'est que c'est très marginal, concentré par endroit, et donc plutôt réconfortant, et d'autant plus que sur les 3000 suspensions qu'on a dénombrées sur tout le territoire national, sur quand même 1 million de salariés.
Là, vous parlez du secteur du grand âge.
Du grand âge. Oui. Dans ces 3000 personnes, donc, il y en a qui ont déjà commencé un retour vers le schéma vaccinal, c'est-à-dire ils ont déjà pris rendez-vous pour la première injection. Donc, c'est assez rassurant. Le but n'étant absolument pas la sanction, mais de toujours encore discuter jusqu'au bout, d'expliquer. Certains ont peur. Il faut continuer à vaincre ces peurs.
Et donc, ça existe. Existe des établissements qui sont, vous dites, c'est assez local, ça existe des établissements qui sont vraiment perturbés par ce...
Alors oui, à partir du moment où vous l'avez entendu, les besoins en ressources humaines sont très forts dans ce secteur notamment, bien sûr que dès lors qu'il manque un ou deux collègues, ça déstabilise complètement une équipe. Ça fait porter le poids sur ses collègues, bien sûr. Donc on veille, c'est-à-dire que j'ai demandé à toutes les agences régionales de santé d'être très vigilantes sur les alertes qu'on peut leur communiquer. Nous avons mis des systèmes de ressources humaines d'urgence, c'est-à-dire la possibilité de prendre des libéraux en contrat gré à gré dans les établissements pour faire face s'il y a vraiment un besoin urgent.
Nous essayons de vacciner aussi ces
bien
libéraux.
Sûr, ouais. Nous surveillons en tout cas cette situation, mais vraiment c'est pas du tout alarmant comme on aurait pu l'imaginer. Toujours déstabilisant quand c'est un secteur tendu comme celui-ci.
Et Brigitte Bourguignon, l'injection de troisième dose pour les résidents d'EHPAD a commencé ?
Oui, ça a commencé, ça se passe très bien parce que d'abord il y a un protocole, il y a eu vraiment quelque chose de bien orchestré et qui maintenant est entré dans les coutumes. Et puis quand on discute avec les résidents, comme je l'ai fait encore à plusieurs reprises cette semaine, pour eux c'est un rappel qui est une évidence et c'est, vraiment ça se passe très bien pour l'instant.
Sur les établissements perturbés localement, vous avez une carte en tête ? Est-ce qu'il y a certains endroits ?
J'aurais du mal à vous donner cette carte dans la mesure où pour l'instant on ne m'a pas fait le retour sectorisé. J'ai demandé à avoir ces retours sectorisés. Je pense que c'est important quand même qu'on voit vraiment là où ça se passe ou là où il y a une concentration effective de personnes qui manquent.
Je reviens à la question de la dépendance et des annonces qui ont été faites hier. Comme vous l'avez entendu, certains espéraient quand même une grande loi. Pourquoi cette loi, depuis 2007, on n'arrive finalement pas à la faire ? À chaque fois, on l'annonce, on dit qu'il va y avoir une grande loi pour les personnes dépendantes et puis ça se retrouve dans le plan de financement de la sécurité sociale, comme c'est le cas aujourd'hui.
Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a eu une loi qui a été votée en 2005 pour les personnes handicapées. 15 ans après, on est toujours dans un système dérogatoire. Elle a consacré des droits, elle n'a donné aucun moyen par endroit. Donc moi, je préfère qu'on aille sur cette ambition que l'on veut avoir pour le grand âge et l'autonomie de manière pragmatique, efficace, c'est ma méthode en tout cas. Et il y aura des sujets qui nécessiteront encore un débat sociétal. Vous voyez, on l'a dit, sur les droits, sur l'utilité sociale, sur la reconnaissance de cette utilité sociale, il y aura des sujets beaucoup plus sociétaux à gérer, mais je crois que l'ambition qu'on porte pour ce secteur est au rendez-vous. Et depuis 2 ans, et de manière pérenne, et qu'on va continuer sur cette trajectoire, en tenant compte des constats qu'on a faits.
Mais cette histoire de loi, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à faire du grand âge une priorité, parce qu'il y a toujours l'emploi qui passe devant, peut-être la jeunesse aussi, des choses un peu plus quotidiennes et peut-être sexy aussi.
Écoutez, c'est la première fois que dans une présentation d'une loi de financement de sécurité sociale, on fait la part belle au secteur de l'autonomie. Ça n'était jamais arrivé. On peut reprendre depuis des années aussi les moyens qu'on a mis sur ce secteur. Ça n'était jamais arrivé. Donc je pense qu'on devrait plutôt prendre de manière effective ce qu'on est en train de faire. Sinon, on partait peut-être dans un débat qui aurait duré des mois, qui n'aurait eu aucun effet pour les besoins en urgence en 2022, en 2023. Et ça n'obère pas les autres sujets qu'on va traiter aussi, le logement, les droits des personnes. On peut les traiter aussi à côté.
Parmi les mesures qui ont été annoncées hier, il y a celle-ci qui a été saluée, hein, le tarif plancher pour l'aide à domicile de 22 euros. Et sur ce sujet, on a une question de Laurence au Standard de France Inter. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour mesdames.
Vous aviez une question pour Brigitte Bourguignon, pour la ministre.
Oui, bonjour madame la ministre.
Bonjour.
Voilà, je suis chargée de tarification donc dans un département de France. Et je voulais savoir concernant ce tarif socle qui est prévu donc à 22 euros.
De l'heure, je précise.
Oui, 22 euros de l'heure, oui, d'autant plus, c'est très important, 22 euros de l'heure. Donc je voulais savoir en fait la différence, chaque département aujourd'hui a un tarif qui lui est propre, hein, de tarif de dépendance. Et je voulais savoir donc la différence entre les tarifs aujourd'hui appliqués et ce tarif socle. Est-ce que le financement va être uniquement par les départements ou par l'État et quel en est le reste à charge des bénéficiaires ? Puisque pour certains bénéficiaires qui aujourd'hui ont un tarif moins important que 22 euros, ont un reste à charge pour certains. Si ça monte à 22 euros, le reste
comment
à charge
va augmenter
également.
Comment Exactement. On finance ? Merci beaucoup Laurence. La réponse assez rapide, s'il vous plaît, madame la ministre.
Oui, alors très rapidement, je vous dirais que oui, ça va s'appliquer à tous les départements. C'est ça le but, hein, c'est d'harmoniser la tarification et ce sera assuré à 100% par l'État, cette compensation au département de cette tarification unique. Et on ira plus loin puisqu'on parlera aussi de dotation qualité de 3 euros supplémentaires dès lors qu'on aura bien fixé le cahier des charges au département et au secteur.
Dernière question courte, réponse courte. Le gouvernement se montre très généreux dans le budget pour l'année prochaine. 11 milliards de dépenses supplémentaires. Est-ce que ces 400 millions annoncés hier viennent s'ajouter en sus des 11 milliards ?
Alors, c'était la trajectoire prévue de la 5e branche qui est alimentée jusqu'en 2024 sans aucun problème. C'était la trajectoire.
5e branche de l'assurance maladie. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie. Merci d'être venue nous répondre sur France Inter.